Dernière note, nous sommes dans le foyer du théâtre des Halles. C'est un foyer et un théâtre que vous commencez à bien connaître.
Oui.
J'ai l'impression que vous aimez bien les maisons, puisque vous avez eu comme maison à Paris le théâtre du Rond-Point. Je parle au passé, puisque Jean-Michel Ribes vient de quitter ses fonctions. Et puis ici, je me souviens de l'effort d'être spectateur. L'an dernier, je te pardonne, Harvey Weinstein. Vous
Oui.
êtes là l'hiver comme l'été. Est-ce que vous êtes sensible à l'idée de maison?
Ah ben je suis très très sensible à l'idée de maison et puis la pièce ne parle encore que de ça. J'ai connu les murs de la Comédie-Française que j'ai adoré, mais en effet, avant l'effort d'être spectateur, on a pu faire ici Ma folle otarie dans la chapelle, on a pu créer L'homme qui dormait sous mon lit, on a présenté Je te pardonne Harvey Weinstein une première fois en hiver, comme on le fait ici, avant de jouer en été. Donc il y a une sorte de complicité, de connivence avec Alain Timard et son équipe qui est née avec Pédagogie de l'échec, qui est une pièce que j'avais écrite et qu'Alain Timard a corrigé avec moi, on l'a retravaillé ensemble, puisqu'Alain est un démiurge, il est scénographe, metteur en scène, il est dramaturge, on a travaillé ensemble, il a mis en scène la pièce qui a été un succès fantastique, et je suis rentré dans le théâtre des Halles par cette porte avec ensuite Alexandra Timard, Alain Timard et toute son équipe.
Alors, dans quelques jours, nous allons découvrir en sortie de résidence, hein, il faut le préciser, Mon père pour en finir avec. Dans ce titre, il y a un mot très important, c'est père.
Oui.
Souvent, vous parlez de la mère dans vos spectacles, je me souviens. Ben, ça, c'était au Chêne Noir que j'avais vu. Moi aussi, je suis Catherine Deneuve. Est-ce que là, vous changez de membre de famille?
Ah oui. En fait, le père est toujours absolument présent, mais il est terriblement présent par son absence. C'est le manque du père, c'est probablement le manque d'amour du père, de signes d'amour du père qui font toutes les pièces jusque-là. C'est-à-dire, moi aussi, je suis Catherine Deneuve, perdue dans Stockholm, sortir de sa mère. Toutes les figures de mère que j'ai pu écrire jusque-là ou composer, c'était des figures de mère soit abandonnées, soit délaissées, soit trahies, soit déçues, soit perdues à cause de cette figure absente de l'homme, du père, du frère, disparu ou taiseux, silencieux. Donc la figure de l'homme est toujours là, mais elle est souvent cruellement dessinée. Là, c'est simplement tout à fait pire, parce que c'est autour du père, mais le père est mourant. On se retrouve donc, comme vous l'avez dit, c'est dans la maison de famille et l'espace de la famille ou la maison, le foyer. Je pense que faire du théâtre, c'est toujours aussi une manière d'essayer de reconstruire une maison idéale, une famille idéale, des amitiés idéales, des histoires d'amour idéales. Et puis, c'est une illusion dans laquelle on entre et puis ça marche pas. On se trompe. Là encore, on se trompe. Mais tant pis. On continue. Et là, la figure du père, en effet, elle est prédominante, mais il est absent puisqu'il est mourant. Et c'est tout ce qui se passe dans la tête de cet homme qui est en train de mourir que nous allons voir sur le plateau. Dans la maison, il y a la mère, qui est encore la première figure de la pièce en vérité. C'est une femme qui a été réduite à l'état de mère ou d'épouse ou de chose ou d'esclave domestique par le père et qui va se libérer de l'emprise de cet homme, patriarche, comme était aussi Harvey Weinstein d'une certaine manière. Comment on se libère de la figure du patriarche? Et elle va convoquer tous les fantômes, les mauvais souvenirs, les regrets, les trahisons, les mystères, les secrets, les crimes anciens commis par le père, avec autour d'elle les trois enfants qu'ils ont eus ensemble.
Parmi les auteurs que vous admirez, il y a Jean-Luc Lagarce.
Ah oui.
Et le théâtre de Lagarce, il revient régulièrement sur le noyau familial, sur les rapports familiaux. Est-ce que c'est pour ça que vous avez cette admiration pour Lagarce?
Oui, bien sûr, mais mon admiration pour Lagarce et pour les écrivains qui inventent une langue, elle est infinie, parce que je suis profondément impressionné, influencé par les inventeurs de musique et les inventeurs de langue. Jean-Luc Lagarce, il invente une langue, Philippe Mignana est aussi un inventeur de langue, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, et puis tant d'autres, enfin.
Nouvarina.
Et Valère Nouvarina invente une langue, bien sûr, mais tous. Michel Vinaver aussi, d'une autre manière, à l'opposé. Mais ce sont toutes ces langues opposées, réinventées, qui constituent des musiques tellement différentes, qui nous constituent, moi qui me constituent, et qui me sont essentielles. Et puis Lagarce, Jean-Luc Lagarce, il y a évidemment les portraits très intimes, très personnels de la famille. Il y a aussi la grande difficulté à aborder la question du langage. Chez Nathalie Sarraute, comme chez Jean-Luc Lagarce, le sujet principal de l'œuvre, c'est toujours le langage. Comment on s'exprime, comment on entend, comment on écoute, comment on réajuste la langue, comment on essaye de s'exprimer autrement pour blesser ou pour ne pas blesser, comment on reçoit tout ça. Et comme c'est un sujet fondamental chez eux, il y a aussi une capacité extraordinaire dans leur talent, dans leur génie à inventer des langues. Et j'avoue que je voudrais pouvoir m'inscrire dans cette école. Moi, je suis très influencé, très admiratif, très admirateur de ces œuvres-là. J'accepte ces influences et je ne me mesure pas à ces talents, évidemment.
Si je prends les spectacles que j'ai vus ici même, Pédagogie de l'échec par exemple, oui. avec cette actrice et cet acteur dans un équilibre de plus en plus précaire. Oui. Après, il y a eu l'effort d'être spectateur, et puis Je te pardonne, Harvey Weinstein, qui caractérise, je trouve, ce que j'ai vu, parce que vous êtes un auteur très prolifique, c'est le recours à l'humour. Souvent extrêmement caustique, toujours très brillant, parfois même nimbé de tendresse, quand je pense par exemple à l'effort d'être spectateur. Est-ce que dans ce qu'on va découvrir samedi, l'humour sera présent ?
On est en pleine répétition, on est en plein travail. Moi, je travaille à chaque instant à essayer de trouver, de retrouver l'humour, la tendresse bien sûr, mais l'humour à chaque instant du travail. Et malheureusement, je dois bien me rendre à l'évidence, je n'écris que des grandes tragédies, des tragédies d'une obscurité terrible, des tragédies sombres. Pédagogie de l'échec, l'idée du grand déséquilibre, c'était vraiment l'idée, l'écriture d'Alain Timard. C'est pas dans la pièce, et en fait, le génie d'Alain, c'est d'avoir ajouté son écriture à une autre écriture, qui est la mienne. Mais il y avait là aussi, en effet, cet humour dans la catastrophe. En fait, toutes les pièces abordent des catastrophes et elles exposent, elles mettent en place des catastrophes intimes, des catastrophes professionnelles avec Pédagogie de l'échec, la catastrophe de l'histoire et du monde du théâtre et de la place du spectateur au théâtre avec l'effort d'être spectateur. Et moi, c'est la catastrophe toujours qui m'intéresse. Là, c'est la catastrophe familiale, le passé. Qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui est né en 46, qui meurt là en 2022 et qui ne laisse rien, qui ne laisse aucun héritage, si ce n'est des mauvais souvenirs, des crimes secrets, des mauvaises actions, de l'impuissance, de l'inaction? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc ça, pour moi, c'est une immense catastrophe. Et on essaye de trouver dans cette catastrophe, en convoquant en plus des souvenirs dans la pièce, des mauvais souvenirs, des fantômes, des démons, on essaye tout le temps de trouver la distance, l'humour qui nous permet de prendre un peu de hauteur, qui nous permet de prendre de la distance avec ce qu'on raconte. Je vais toujours fouiller dans des atrocités terribles. J'ai honte et en même temps, c'est à cause de la honte que j'écris. Et dans cette honte, je vais toujours fouiller le pire, en moi d'abord et puis en nous, parce que je crois qu'on partage un certain nombre de catastrophes tous ensemble. Mais si je ne le fais pas avec humour, je m'accuse davantage. En fait, la moindre des délicatesses, la moindre des politesses, c'est de faire preuve d'un peu de distance et un peu d'humour pour pouvoir supporter la catastrophe qu'on expose.
Harvey Weinstein, c'est un spectacle que vous aviez mis en scène. Hein, donc là, vous contrôliez la proposition du début à la fin. C'est une véritable comédie musicale. Hein, où j'ai appris, j'avoue, sincèrement, beaucoup de choses sur la sexualité féminine.
Ah oui, c'est
au passage.
Moi aussi, oui, voilà. En écrivant.
La forme, par exemple, de mon père, pour en finir avec, dans Harvey Weinstein, il y avait votre sœur qui participait à la distribution. Ah oui. Est-ce que vous avez une troupe de fidèles qui vous accompagne de spectacle en spectacle, ou est-ce que vous renouvelez les distributions suivant les propositions?
En fait, on revient à votre première question qui est en fait totalement fondamentale, la question de la maison. Organiser un projet en tant que metteur en scène, en tant que comédien, en tant qu'auteur, en tant que porteur de projet, c'est toujours essayer de construire une nouvelle maison. Une sorte de château idéal ou de petite principauté, de petits quartiers, rien qu'à nous, rêver, où on va pouvoir traverser ensemble les différentes épreuves qu'on aborde sur le plateau, en étant à nouveau réunis, rassemblés, dans un esprit de troupe, de compagnie, de famille. Donc on cherche des frères, on cherche des sœurs, on cherche la mère, on cherche le père, on cherche l'amour, on cherche des liens indéfectibles. Et mettre en scène, c'est aussi inventer à chaque fois forcément un nouveau dispositif. Donc on met à l'épreuve les acteurs et les comédiens, les comédiennes, on les met à l'épreuve dans de nouvelles expériences, forcément. Donc c'est toujours très éprouvant pour les comédiens, pour les comédiennes, d'avoir affaire à une nouvelle manière de travailler, un nouveau dispositif. Donc il faut pouvoir, en fait, avoir déjà travaillé avec eux, les connaître bien, se supporter. Donc là, je retravaille avec Muriel Godin, avec qui j'ai fait l'histoire d'une femme aussi, qu'on a présentée à Avignon à 3 reprises, avec Sylvie Laguna, qui faisait L'homme qui dormait sous mon lit dans les jardins du Théâtre des Halles, avec Laïe Guetté, qui était avec Sylvie et Muriel dans L'homme qui dormait sous mon lit, avec Benoît Giraud, avec qui on a fait La magie lente et Jubilé à Avignon également. Et Shekina qui arrive pour la première fois dans cette équipe. Mais en effet, ce sont toujours des liens familiaux qui se créent. Donc on a besoin de retrouver des gens qu'on connaît très bien et qui me connaissent bien et qui peuvent me supporter, parce que le travail n'est pas si joyeux, c'est pas si simple. On essaye de créer de la fête, mais on passe par des moments parfois douloureux, compliqués. Donc oui, je retrouve des gens avec qui j'ai déjà travaillé, il y a des gens nouveaux, et puis nous verrons comment les choses évolueront et comment on suivra ce travail.
À une époque de votre vie, vous avez écrit des feuilles de salle pour la Comédie Française. Ah oui. Il me semble, pour le Festival d'Avignon. Vous avez même été critique de théâtre, oui, pour la revue Théâtre, avec le S entre parenthèses. Est-ce que ça vous a apporté ce travail où tout à coup vous passiez de l'autre côté, Vous deveniez enfin, journaliste, chroniqueur, regardeur, spectateur.
Moi, c'était une expérience fabuleuse. Moi, j'avais d'abord, dans un premier temps, à 17 ans, j'avais créé ma compagnie et j'écrivais mes pièces que je commençais à monter. Ensuite, j'ai eu la chance de voir un de mes romans publié. C'était en 1993 par Maurice Nadeau. Et c'est à cette époque qu'on m'a proposé d'écrire dans la presse. Donc, j'ai commencé à travailler au Nouvel Observateur, ensuite à l'événement du jeudi, ensuite pour le magazine La Terrasse, pour le magazine Théâtre. Et je suis devenu critique dramatique. Ça a été une expérience fabuleuse puisque ça me permettait d'aller voir des spectacles, d'être rémunéré pour ça, de pouvoir penser autrement le spectacle vivant, de rencontrer les artistes, de découvrir des gens absolument extraordinaires. Je pense que j'ai probablement fait un certain nombre d'erreurs en écrivant des atrocités sur un certain nombre de personnes aussi, mais c'était passionnant de travailler à cet endroit-là du spectacle vivant, en tant qu'observateur, en tant que spectateur. Et puis pour la Comédie Française, pour le Théâtre du Rond-Point, pour le Théâtre National de Chaillot, pour la Manufacture de Nancy, j'ai en effet travaillé sur tous les documents de communication de ces lieux, la rédaction des textes. Et bien là, pour le coup, ça permet évidemment de rencontrer les artistes, d'être au plus proche de la création des autres. Et je me suis surtout rendu compte que ce n'est pas un théâtre qui m'intéresse, certainement pas le mien, mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est l'ensemble, la diversité extraordinaire des univers qu'on peut nous proposer à travers le spectacle vivant, ce qui n'est pas le cas, je crois, ailleurs, cette diversité incroyable qu'on retrouve pendant le Festival d'Avignon, ou même en dehors du festival, puisque beaucoup de théâtres à Avignon sont ouverts en ce moment, toute l'année. Donc la diversité des propositions, des univers, des esthétiques, des réinventions du monde, ça me paraît absolument essentiel de pouvoir se confronter à tous ces mondes qui nous sont proposés.
Ce travail d'observateur, de chroniqueur, maintenant que vous êtes redevenu un artiste, je dirais presque à temps complet, est-ce que ça vous permet d'envisager différemment, lorsque vous travaillez, par exemple, comme en ce moment au plateau, de vous dire, ben là, non, le public va décrocher, de vous poser peut-être plus régulièrement la question du public et du spectateur?
On s'interroge tout le temps sur la relation qu'on met en place avec le spectateur. C'est la seule question fondamentale qu'on ne peut pas éluder. C'est quelle relation on va mettre en place au bout du compte avec le public. Qu'il y ait deux spectateurs ou une salle pleine de 200 personnes ou de 800 personnes dans certains lieux, la seule question que l'on se pose quand on commence à porter un projet, c'est quelle relation on va mettre en place avec le public. Donc ça a toujours été absolument essentiel, cette question. Comment on va essayer de faire vivre cet objet sur le plateau pour que cette électricité, cette vivacité, cette force, cette vitalité, elle parvienne aux spectateurs, aux spectatrices et qu'on puisse créer un lien vivant entre eux et nous, parce que c'est quand même ça qu'on vient tous toujours chercher ensemble au théâtre. C'est le fait d'être ensemble, d'être en vie, d'être vivant et de traverser et des émotions et des pensées et des considérations et de brasser les fantômes et les vivants, les souvenirs, le présent, le futur, de s'interroger sur tout et tout ça dans une vivacité, dans une fête, même si elle est catastrophique, une fête joyeuse et vivante. Donc ça, c'est une question fondamentale. Mais en observant les univers des autres, ce que j'ai pu faire, puisque je continue à faire, évidemment, parce qu'il n'est jamais question d'arrêter d'aller voir ce que font les autres, c'est aussi accepter les influences des gens qui réinventent et la langue, qui réinventent l'écriture scénique, qui réinventent les dispositifs de mise en scène, qui réinventent des rythmes, et se laisser influencer partout pour pouvoir essayer de créer cet objet vivant qu'on va partager avec le public.
Parmi vous, les auteurs que vous chérissez, il y a Philippe Mignana, vous en avez parlé. Bah, il y a quelques semaines, on a pu voir La Petite dans la forêt profonde, ici même, c'est un texte de Mignana. Et puis peut-être que son texte le plus célèbre, c'est Inventaire, hein, oui. Interprété par Judith Magre, Edith Scob et Florence Giorgetti,
c'est ça, exactement, bonne. Exactement.
Chez Mignana, c'est très sec, il y a une rythmique extrêmement syncopée. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse chez Mignana?
Je ne le vois pas comme ça, parce que chez Mignana, il y a une tendresse infinie, il y a les mots de la vérité absolue, une sorte de vérité intime, une sorte de grâce de la parole très 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 intime et en même temps une fantaisie, je trouve, fabuleuse. Il y a toujours une sorte de récit épique, mais qui ne prend pas le dessus sur l'intimité, sur l'humanité. Ce qui se dégage, c'est toujours des sortes de miniatures humaines, des figures de l'humanité que je trouve tellement drôles, savoureuses, truculentes, intelligentes. Enfin, il y a une grâce formidable. Et puis, il y a un rythme, il y a une langue, il y a l'invention d'une langue. Moi, je suis un adorateur de Philippe Mignana, mais je découvre, en les mettant en scène, par exemple, des auteurs d'une intelligence que je trouve totalement supérieure. Denis Lachaud, par exemple, dont on a mis en scène avec Benoît Giraud, La Magie lente et jubilée. Mais chaque fois qu'un auteur, un écrivain invente sa langue, je suis admiratif, bien sûr.
Écrire, c'est toujours une nécessité, une urgence de vie pour vous, parce que On a l'impression que si vous n'écriviez pas, enfin, d'ailleurs vous l'avez dit, vous ne seriez peut-être plus de ce monde actuellement.
Non, je pense que c'est plus grave encore. C'est-à-dire que si je n'avais pas écrit, je pense que je serais devenu un assassin. En fait, je crois que c'est ça qui me fait le plus peur. Enfin, écrire relève pour moi toujours de la nécessité. Il y a une sorte d'urgence à aller interroger soit la catastrophe, soit le pire, soit la barbarie en soi qui est là. Et quand elle réapparaît, le seul moyen de l'apaiser ou de la calmer, c'est d'écrire, c'est d'essayer de composer cette musique avec laquelle nous allons faire quelque chose avec les comédiens sur le plateau. Mais c'est le seul moyen d'apaiser, de calmer le monstre ou l'assassin en soi. Après, j'ai commencé à écrire parce que je n'arrivais pas à lire, parce que je n'arrivais pas à parler, parce que je n'arrivais pas à être au monde. Donc je me suis réfugié dans l'écriture ou dans la musique et je n'ai pas trouvé jusque-là d'autres moyens de me réfugier hors de ma propre catastrophe.
Une dernière question, Pierre-Naud, parce que pour en revenir à Harvey Weinstein, il y avait quand même des chansons assez magnifiques, je trouve. Merci. Il y a beaucoup de mélodies. Il y a de la musique, il y a des chansons dans Mon père pour en finir avec.
En fait, quand on porte un projet, la grande difficulté, c'est aussi de fuir et de rompre avec ce qui précède. Et en fait, Harvey Weinstein, c'est un cabaret, donc il y a beaucoup de chansons. Moi, j'ai adoré composer ces morceaux et travailler avec Clément Walker Viry au piano, qui est un ange qui accompagnait tout ça. On chantait tout le temps. Et là, en fait, on a commencé à travailler avec des musiques originales. Et puis, je me suis rendu compte, j'ai souhaité en fait qu'on ait affaire qu'à la parole. Qu'on aille à l'os, comme on peut dire, qu'on aille à l'essentiel tout le temps, que la musique ne soit jamais ni illustrative, ni divertissante. Donc en fait, le sens de la présence de la musique, je ne l'ai pas trouvé jusque-là dans les répétitions. Donc il y aura probablement quelques notes de musique, mais c'est peu probable. Et je ne sais pas encore. En fait, on n'est que dans la musique du texte pour l'instant.
Un travail choral.
Ah, c'est un travail choral, c'est un travail musical, mais la parole est musicale, le rythme est musical. On travaille sur les niveaux de voix, sur les codes de jeu. Les comédiens sont à la fois... Les comédiens, ils sont des personnages, ils sont des figures, ils sont des fantômes, ils sont des morts, ils sont des vivants. Il y a tout ça déjà à organiser, c'est très choral, donc c'est très musical forcément, mais la musique n'a pas forcément sa place. Je ne veux pas du tout accessoiriser ou instrumentaliser la musique.
Bon, mais à samedi alors.
À samedi, avec joie.